Aujourd'hui, nous ne lirons qu'un seul texte. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par son entremise que nous avons eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ, en son temps, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. Or voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise ? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Père, ta parole est puissance pour nos vies. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs et de voir la lumière que tu nous donnes et qui guide nos chemins. Amen. Nous chantons le cantique 255 en entier. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas vous, mais il me semble que Paul peut faire peur à première vue. Car il utilise un vocabulaire qui n'est pas toujours évident à intégrer dans nos vies. Cela dit, je crois fermement que toute la richesse du texte biblique, c'est aussi de nous déplacer et de nous offrir l'occasion de voir les choses d'un angle nouveau. Alors, en ce jour de la Réformation, prenons le temps de nous laisser une nouvelle fois interpeller par le texte biblique. Et celui-ci nous déplace plutôt bien, je trouve. Paul définit ici ce dont il a succinctement parlé au chapitre 3 de la même épître, lorsqu'il disait « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. » Vous l'avez peut-être entendu, Paul, au début du texte, nous dit « Nous sommes en paix avec Dieu ». Être en paix avec Dieu, c'est tout de même quelque chose. Vous avez peut-être remarqué que Paul utilise le présent. « Nous sommes en paix avec Dieu ». La paix est là, déjà, aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que l'on espère dans un avenir lointain. C'est une formidable nouvelle que nous annonce Paul dès le début de ce passage. Mais bon, très bien, me direz-vous. Mais cette affirmation ne nous interroge-t-elle pas quand nous nous débattons dans nos prières, quand le silence de Dieu nous paraît si pesant? Il est indéniable que nous ne nous sentons pas toujours en paix avec Dieu, loin de là. Vous l'avez remarqué, ce verset m'interroge. Et c'est pourquoi je vous propose de vous arrêter quelque temps ici. Lorsque nous lisons le chapitre en entier, nous voyons qu'à la suite directe de ce texte, Paul établit une comparaison entre Adam et Jésus. Le premier a entraîné la chute et le second a racheté l'humanité. Il est important d'avoir cet élément en tête lorsque nous lisons notre texte, puisque Paul évoque, comme il le fait dans toutes ses lettres, un temps passé où nous étions ennemis, et un temps présent où nous sommes réconciliés. Ce qui interroge l'apôtre dans ce passage, dans ce chapitre-là, que nous lisons aujourd'hui, c'est le don ultime que Dieu fait en se réconciliant avec l'homme à travers la mort de Jésus, et ce que cela implique pour le chrétien quand il réfléchit, à son identité. Nous entendons dans ce passage un vocabulaire relationnel, en paix avec, réconcilié, la réconciliation. Paul nous parle de notre relation à Dieu, il nous propose une nouvelle façon de penser celle-ci à la suite de la mort de Jésus. Et ce qu'il propose, c'est une relation avec. En la personne de Jésus-Christ et à travers l'Esprit, Dieu vient dans nos vies, il vient avec nous affronter nos épreuves. Mais quelle est cette paix dont nous parle Paul? Celle qu'il évoque au début de sa lettre, quand il salue les Romains auxquels il va s'adresser? Quand il dit « À vous la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ » comme on le retrouve dans la plupart de ses épîtres, et comme nous le disons au début de notre culte, chaque dimanche. Est-ce la paix shalom qui est évoquée dans les écrits de l'Ancien Testament? Celle-ci comporte de nombreux sens. Elle peut signifier l'absence de guerre entre deux nations, mais aussi l'intégrité, la plénitude, le caractère complet des choses, le bonheur. Elle représente le don divin ultime. Paul, évidemment de culture juive, a en tête tous ces sens. Et c'est pourquoi dans ce passage, il indique que selon lui, le salut chrétien consiste avant tout en une paix ou en une réconciliation avec Dieu. Et cette paix, elle n'est possible que par un don gratuit, premier, de grâce que Dieu nous donne, et la réponse que l'homme fait à ce don. Mais comment être en paix aujourd'hui avec Dieu, nous-mêmes ou les autres, quand nous sommes témoins de la violence, des contradictions et de l'instabilité. Face à ces épreuves, Paul nous assure une chose. L'amour de Dieu et la grâce qui nous est offerte de par cet amour ne faiblit pas et nous remet en route avec espérance. Cela dit, l'épreuve forme l'espérance, nous dit-il. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Quand il dit « bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance, la fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons penser à ce que l'on dit aux personnes qui traversent des épreuves dans leurs relations. On conseille souvent de s'accrocher, de ne pas laisser tomber. Un moment de doute ne suffira pas à rompre la relation. On considère souvent qu'un couple ou une autre relation est plus solide lorsqu'il a survécu à des épreuves. Ici, lorsque Paul nous parle de détresse, de quoi nous parle-t-il exactement ? Des détresses que nous ressentons face aux autres hommes, face à Dieu ou face à nous-mêmes. Nous avons tous rencontré et nous rencontrerons toujours des épreuves dans nos vies. Face aux autres hommes qui utilisent la violence des mots ou physiques pour imposer une vérité que seuls eux auraient. Face à nous-mêmes quand nous nous trouvons en proie à une situation qui nous semble inextricable. Et face à Dieu lorsque nos cris semblent résonner dans le vide. Mais devant cela, il y a cette relation avec. Loin d'être un Dieu lointain qui ne regarderait que de temps en temps vers nous, nous avons la réalité de cette présence avec nous, qui espère et qui aime avec nous. L'espérance qu'annonce Paul, c'est ce qui nous permet de nous mettre en route vers l'avenir. Cette foi en dépit de la violence humaine, de l'instabilité, cette foi malgré tout. C'est l'amour de Dieu et son espérance envers nous. C'est Dieu qui nous la suscite et la renforce face aux épreuves. Il y a aussi ce que Paul nous dit, il est mort pour nous. Cette formule a une longue histoire. Vous le savez peut-être déjà, mais Paul n'évoque quasiment pas la vie de Jésus dans ses épîtres. Il ne parle de celui-ci qu'en tant que Jésus-Christ, en tant que Messie. Car c'est la croix et les implications de ce qui s'est passé sur la croix qui sont importantes dans les épîtres pauliniennes. Pour reprendre d'une expression populaire, il y a un avant la croix et un après. Nous pourrions parler longtemps de toute l'histoire qu'a eue dans l'Église l'idée de la mort de Jésus-Christ pour nous. Il y a eu des explications comme celle d'une rançon au diable, le diable qui aurait été payé pour que le mal s'en aille avec la mort du Christ. On voit tous le problème qu'il y a là-dedans. Il y a aussi le sacrifice pour la satisfaction de Dieu. Dieu qui serait en colère et qu'il faudrait donc la mort du Christ pour que nous soyons vu juste aux yeux de Dieu. Mais le message de Luther, ici, c'est la justification gratuite. Et face à cette idée de sacrifice expiatoire, lorsque je lis ce texte, il me vient surtout ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean. L'amour total, ultime de Dieu, qui se manifeste dans la personne de Jésus malgré notre faiblesse. Et j'entends ici ce que nous confessons dans ce temple. Nous croyons à l'amour plus fort que la mort. Paul évoque tout au long de sa lettre aux Romains différents temps. Il commence dans les premiers chapitres à parler de la situation passée. Il passe au temps présent lors du chapitre 5 pour ensuite évoquer l'avenir jusqu'à la fin de sa lettre. Il s'adresse bien entendu à des interlocuteurs romains au 1er siècle de notre ère. Mais la force de son message a traversé les âges et nous parvient aujourd'hui. En tant que protestant, Nous lisons souvent cette lettre avec la figure de Luther en arrière-plan. Celui-ci a commencé sa démarche réformatrice à la suite de la lecture de cette épître, en se découvrant justifié gratuitement, non pas par ses nombreuses œuvres, mais par sa foi que Dieu suscite par sa grâce. Nous connaissons la suite de l'histoire et nous commémorons aujourd'hui cet événement. La portée de la thèse de Luther est aussi due à la dimension libératrice de l'Évangile et de la foi qu'elle entendait. L'époque était loin d'être paisible, la peur était omniprésente pour tout le monde. Entre maladies, guerres et menaces de purgatoire, il y avait de quoi se faire beaucoup de soucis. Dans ce contexte, proclamer que l'amour de Dieu et le pardon de celui-ci ne dépend plus de mes actions, mais de l'œuvre accomplie une fois pour tout par le Christ, change énormément de choses. Aujourd'hui, nous recevons cela, mais comment nous le vivons, ce message ? Lorsque Paul nous dit « Nous sommes en paix avec Dieu », que faisons-nous de ce message ? Je vous propose quelques pistes qui me sont personnelles. Être en paix avec Dieu, c'est aussi être en paix avec soi-même. C'est ne plus se sentir obligé de se justifier sans arrêt, comme nous en avons pris l'habitude dans nos vies. Nous justifions nos choix de relations, nos études, notre carrière. Nous sommes dans un monde d'auto-justification. Nous avons besoin de montrer que nous méritons ce que nous avons, que nous avons raison de faire ce que nous faisons. Le message libérateur de l'Évangile, c'est que nous n'avons plus besoin de nous justifier pour ce que nous sommes. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ et nous sommes bel et bien libérés par cette parole. Et dans notre relation à Dieu, nous sommes libérés. Cette liberté, nous pouvons aussi la vivre en devenant un élément de contestation, en devenant en quelque sorte des lanceurs d'alerte. Car la grâce qui nous délivre, mais elle nous engage aussi à ne pas détourner les yeux de notre prochain, de celui qui se trouve au bord du chemin, des gouvernements qui choisissent d'ériger des murs, de celles et ceux qui frappent à notre porte après avoir fui des situations difficiles. Osons aller dans le monde avec ce message d'espérance que Paul nous délivre. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.